Il semblait que j'avais entendu quelque chose. Moi, je suis très descendu dans la prière. Seigneur veut que je sois humble. Oui, Seigneur, je suis tout petit. Je pense qu'il va redescendre, par exemple. Je peux finir à genoux, si vous voulez. Moi, j'ai pas de trouble avec ça, là. En tout cas, s'il rebaisse, peut-être je vais l'interpréter comme ça, on verra. On interprétera, OK? Matthieu 15. Simplement pour se remettre dans le contexte, ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, c'est important que je mentionne, notre frère Normand nous conduisait dans le passage qui précède, et puis c'est vraiment un conflit que Jésus vit avec les pharisiens. Les pharisiens sont des enseignants de la Bible, de l'Ancien Testament, ce sont des docteurs de la loi, comme on les appelait à l'époque, donc ils étudiaient les Saintes Écritures, et supposément, enfin leur mandat, le mandat même qu'ils se donnaient, était d'être des lumières. Ils devaient amener de la lumière sur la parole de Dieu, et donc montrer la voie, littéralement, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Ils étaient là pour apporter la lumière au peuple, c'était leur rôle. Maintenant, comme on l'a vu la semaine dernière, ces pharisiens avec les siècles, avec les décennies, se sont empêtrés dans toutes sortes de règlements d'hommes, toutes sortes de lois d'hommes, qui sont venus même dans leur cœur, dans leur pensée, supplanter la parole de Dieu. Et lorsqu'on arrive dans le passage de la semaine dernière, la confrontation, le niveau de confrontation entre Jésus et les pharisiens atteint un sommet dans l'évangile de Matthieu. C'est la première fois que ça devient aussi chaud que ça, entre les enseignants juifs de l'époque et Jésus. L'opposition est en train de se manifester. Et Jésus termine ce passage en disant à ses disciples, les enseignants de la loi n'ont pas saisi la foi, la religion de Dieu, ce n'est pas une religion de l'extérieur, des apparences et des formes, parce que le vrai problème n'est pas dans les agissements extérieurs ou dans les règlements ou les traditions, le vrai problème vient du cœur de l'homme. Et là, on a toutes sortes d'échos lorsqu'on est familier avec les enseignements de Jésus qui nous viennent à l'esprit, des adorateurs en esprit et en vérité. C'est vraiment ce qui part de l'intérieur du cœur de l'homme qui importe pour Christ et pour Dieu. Maintenant, dans le passage ici, Matthieu nous dit, au verset 21, « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. » Déjà, Matthieu est en train de nous parler. Déjà, Matthieu est en train de nous dire quelque chose et prépare la suite de son passage. Le territoire de Tyr et de Sidon, si vous n'êtes pas familier avec la géographie du Nouveau Testament, c'est dans le nord et c'est le Liban actuel. On sort d'Israël ici. Jésus a un conflit avec les docteurs de la loi, les enseignements de la loi juive, avec des juifs, et il va se retirer dans un territoire non juif. Il n'a pas trouvé une réponse favorable à son enseignement. Les docteurs de la loi n'ont pas voulu reconnaître en lui le Messie. Il va se retirer dans un territoire non juif. Et là, il va trouver ce qu'il n'a pas trouvé en Israël, à travers une femme cananéenne. Et déjà, Matthieu est en train de nous parler, est en train de nous préparer à recevoir un message. Ainsi, le sauveur des Juifs se retire du territoire juif pour quelque temps, parce qu'il vient d'avoir une confrontation avec les docteurs de la loi et il va trouver la foi chez une femme cananéenne. Matthieu veut mettre en relief deux attitudes complètement opposées. Puis pour faire ça, il va aller plus loin encore. L'évangile de Marc, l'évangéliste Marc, dans son évangile, nous raconte la même histoire. Et lorsqu'il nous parle de cette femme, il la présente comme une syrophénicienne. C'est comme ça qu'il l'appelle. On ne connaît pas le nom de cette dame-là, on ne saura jamais, mais il la présente comme une syrophénicienne. C'est juste de dire ça. Maintenant, c'est assez neutre, d'accord? Ça parle de la région, elle vient de la Phénicie qui est au nord. C'est assez neutre, ça n'a pas de connotation négative nécessairement, sinon de nous dire que c'est une non-juive. Matthieu, lui, non, il veut souligner quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'il l'appelle? Une cananéenne. C'est moins neutre, ça. Et si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous savez que c'est moins neutre, parce que les Cananéens étaient les ennemis jurés d'Israël. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a décidé de donner un territoire à son peuple, qu'il a fait sortir le peuple d'Israël, il a formé une nation avec ce peuple-là, avec les descendants de Jacob, en Égypte, Il a fait d'eux une nation puisqu'il les a multipliés jusqu'à ce qu'ils soient un peuple nombreux. Et là, il a dit, OK, le temps est arrivé, je vous donne un territoire. Maintenant, il va falloir chasser du monde pour pouvoir avoir un territoire. Je vous donne le territoire des Cananéens. Et ça résume à peu près toute l'histoire de la relation entre Israël et les Cananéens. Aux yeux des Cananéens, Israël, c'est le peuple envahisseur. C'est les gens qui sont venus nous chasser. Aux yeux des Cananéens, ça c'est la vision d'Israël. Aux yeux d'Israël, comment est-ce qu'eux voient les Cananéens? Bien, ils les voient comme les idolâtres, les gens avec qui qu'ils auraient dû entièrement chasser, c'est vrai. Mais ils l'ont pas fait au complet. Alors, ils ont une histoire qui est d'alliance et puis de séparation, de division, de guerre. Mais chaque fois qu'ils ont fait alliance avec des peuples cananéens, c'était pour leur perte parce que ça allait amener ils allaient adopter les idoles des Cananéens et ils allaient renier leur Dieu eux-mêmes et toutes sortes de convictions qu'ils auraient dû garder. Donc, c'est une relation extrêmement difficile entre les deux. Matthieu veut le souligner. Matthieu veut dire, où est-ce que Jésus va trouver la foi? Va trouver la foi chez les ennemis jurés d'Israël. Le roi des Juifs va trouver la foi chez les ennemis jurés d'Israël. Alors Jésus se rend dans ce territoire et il y a cette femme qui vient vers lui. Dans l'évangile de Marc, on apprend que Jésus voulait vraiment se retirer. Il allait à l'écart, peut-être pour laisser les choses se calmer un peu. Son temps n'était pas encore venu. Il ne fallait pas que l'animosité entre les dirigeants religieux et lui arrive tout de suite à leur summum, à leur climax, pour qu'il termine, comme on le sait, crucifié tout de suite. Peut-être qu'il voulait simplement laisser la poussière retomber, on ne sait pas. Mais il voulait aller à l'écart. Dans Marc, l'évangéliste Marc nous dit qu'il est même allé dans une maison pour être tranquille. Il n'allait pas sur la place publique, ce n'était pas le moment du ministère public. Il allait à l'écart dans une maison. Mais une femme va entendre dire que ce Jésus de Nazareth est là. Elle va le poursuivre, elle va venir parce qu'elle a quelque chose sur son cœur. Elle a un besoin incroyable. Elle veut que Jésus guérisse sa fille. Elle interpelle Jésus en disant, « Fils de David, Seigneur, fils de David. » Maintenant, ce n'est pas une juive qui dit ça. C'est une cananéenne qui dit ça. « Fils de David », c'est l'appellation que les Juifs donnaient au Messie qu'ils attendaient. David avait été le grand roi d'Israël qui allait dominer, à qui des promesses éternelles avaient été données, littéralement des promesses éternelles. « Ton trône va demeurer éternellement dans ta descendance. » Et donc, lorsque la dynastie de David a cessé, le peuple juif a toujours continué à attendre ce Messie qui allait venir et qui allait perpétuer la dynastie, qui allait perpétuer le règne de David. C'est le fils de David qui devait revenir. Alors, dans la culture juive, fils de David, c'était dire, c'est toi le Messie qu'on attendait. Vous avez cette cananéenne qui vient vers Jésus pour un miracle. Elle aurait pu l'appeler « Seigneur, maître, grand docteur de la loi, toi qui fais des miracles au nom de Dieu. » C'est pas comme ça qu'elle l'appelle. « Seigneur, fils de David. » Et il y a beaucoup de choses juste dans cette déclaration-là, parce qu'elle est en train de dire que ce n'est pas son roi à elle. Remarquez l'humilité. Elle est en train de dire « C'est toi le roi de nos envahisseurs. » Je reconnais qu'en toi, les prophéties vont s'accomplir. Je reconnais qu'Israël est béni entre toutes nations. C'est tout là, juste dans le fait qu'elle reconnaît l'accomplissement des prophéties en ce Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup d'humilité simplement dans cette déclaration. Alors que les Juifs ont de la difficulté à voir en Jésus de Nazareth, le fils de David, le Messie, une cananéenne va venir le déclarer, une païenne est prête à reconnaître en lui le Messie. Et si vous regardez un tout petit peu plus loin au chapitre 16, si vous avez les Écritures ouvertes devant vous, au verset 13, Pierre va faire pour une première fois une déclaration très très claire. C'est là que Pierre va déclarer que Jésus est bel et bien le Christ. Alors si on suit un peu la pensée de Matthieu, c'est une cananéenne qui va déclarer que Jésus est le fils de David, non seulement avant les Juifs, mais avant même les disciples de Jésus. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Avant d'aller vers l'expérience que cette femme-là a vécue avec Jésus, avant de voir son cheminement de foi, son humilité, tout ce qu'on a en tiré, il faut qu'on lise l'histoire du salut ici. Quand je parle de l'histoire du salut, je parle de l'histoire du salut telle qu'il est racontée, telle qu'elle est racontée à travers toutes les Écritures. Où Dieu a créé l'homme, l'être humain a péché, a rejeté Dieu. Puis Dieu s'est choisi un peuple à travers lequel il devait bénir toutes les nations. Ce peuple-là n'a pas saisi cela. Il a estimé que toute la bénédiction était pour lui, pour Israël. Maintenant, depuis le début de son évangile, Matthieu sème des indices qui nous disent que bientôt, les portes vont être grandes ouvertes à toutes les nations de la terre. Depuis le début de l'évangile de Matthieu, il est en train de faire ça. Et si vous êtes avec nous, depuis le début de la série dans Matthieu, ou si vous êtes familier avec cet évangile, vous pouvez vous rappeler juste de la généalogie de Jésus qui est, où Matthieu a parsemé des noms de dames qui sont là dans l'arbre généalogique de Jésus, mais pas seulement des dames païennes. Et puis, qui sont les premières personnes qui sont allées se prosterner devant Jésus, devant l'enfant Jésus? Des astrologues venus d'Orient, des païens, des non-juifs, ce sont les premiers qui sont venus l'adorer. Plus on avance dans l'évangile de Matthieu, Matthieu est en train de semer des indices progressivement. Il est en train de nous dire, le temps arrive, le moment arrive où le salut va être ouvert à toutes les nations de la terre. Les promesses faites à Abraham qu'il bénirait en lui toutes les nations de la terre sont en train de se préparer, ça va s'accomplir, ça s'en vient. Et il est en train de semer encore un indice ici. Il nous dit, on n'est pas rendu. Jésus va être extrêmement dur avec cette femme. Il va vraiment la tester, l'éprouver. Sérieusement, déjà, cette femme vient vers lui en disant, « Fils de David », c'est déjà une marque d'humilité vraiment belle. Mais Jésus ne la laissera pas aller si vite parce que les temps ne sont pas accomplis encore. Voyez-vous, dans l'histoire du salut, Jésus est envoyé premièrement vers les Juifs. Jésus devait venir premièrement comme le sauveur des Juifs et il doit venir vers eux pour leur offrir l'Évangile. Qu'est-ce que les Juifs vont en faire à ce moment-là? Qu'est-ce que le peuple élu va faire du sauveur? Ils vont le livrer entre les mains des Romains. Ils vont le rejeter, ils ne reconnaîtront pas en lui le sauveur. Ils vont le livrer entre les mains des Romains pour être crucifiés. Ils vont le rejeter littéralement. Ah, des Juifs vont croire, mais dans l'ensemble, la nation va rejeter son Messie, son sauveur, et ils vont le faire crucifier par la main des Romains. C'est ça qui va se passer, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on arrive à la fin de l'évangile de Matthieu, après sa résurrection, Jésus déclare aux disciples, « OK, les temps sont accomplis maintenant. » Le Messie est venu vers le peuple élu, vers Israël. Les temps sont accomplis maintenant. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ce sont les disciples qui vont franchir cette barrière-là. Même eux vont avoir de la difficulté à comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il va falloir que Dieu vienne confirmer encore. On le lit dans le livre des Actes, à travers vraiment des manifestations surnaturelles de Dieu pour confirmer. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Oui, c'est clair. Allez vers toutes les nations. Et là, on peut penser à Corneille, on pense à différents passages où ça va prendre encore une confirmation. C'est pas clair dans leur esprit. Est-ce qu'on doit vraiment aller vers les païens? C'est des incultes, c'est des gens qui ne t'adorent pas depuis des siècles, qui ont des idoles. Est-ce qu'on doit vraiment aller vers eux? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Lorsque Matthieu écrit cet évangile, il l'écrit pour des chrétiens qui retournent en arrière puis qui relisent l'histoire comme ça puis qui disent, c'est vrai, Jésus est en train de préparer ce terrain-là. Dans la réponse qu'il va donner à cette dame, ultimement, Jésus est en train de préparer ce terrain-là. Maintenant, un des messages de Matthieu dans le passage ici, c'est que le christianisme n'appartient pas à un peuple. Le christianisme n'appartient pas à une nation, il n'appartient pas à un peuple. Jésus-Christ comme sauveur n'appartient pas à une nation, il n'est pas le sauveur d'un peuple, mais de tous ceux qui viendront humblement à lui, de tous ceux qui le choisiront avec le cœur. Malgré ce qu'il va répliquer après, là, on va le voir ensemble. Chez qui trouve-t-il la foi? Chez cette femme cananéenne, parce qu'elle est humble. Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8 que la connaissance enfle, mais que la charité édifie. Voyez-vous, lorsque Jésus est allé vers ces hommes dans le passage juste avant, ces hommes d'une grande érudition, d'une grande connaissance, qui mémorisaient les Saintes Écritures, qui connaissaient des grands pans des Saintes Écritures sur le bout des doigts, pouvaient les réciter n'importe quand, ces gens-là étaient aveuglés par leur connaissance. C'est vrai que la connaissance toute cette connaissance leur servait à estimer qu'ils savaient mieux, qu'ils connaissaient mieux, même que Jésus-Christ, même que le Messie qui vient vers eux. La connaissance enfle tellement qu'ils ne voient même plus. Voyez-vous, le christianisme est la foi des humbles. C'est le salut des humbles. C'est la religion de celui qui vient à Dieu avec un cœur humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. On connaît tous des gens autour de nous qui oubliez le domaine de la foi, oubliez les questions de foi, juste dans les rapports, des gens qui sont tellement orgueilleux, tellement imbus de leur connaissance, de ce qu'ils savent, « they know better ». Tu essaies de parler avec eux, puis tu n'as même pas le temps d'aller au bout de ton idée. Ils ont toujours une réponse à tout. Tu ne peux pas leur parler, ils ne sont pas parlables. Leur connaissance fait qu'ils ne sont pas enseignables. Puis là, tu leur parles, puis ils te répondent, puis ils répliquent, puis tu vois qu'ils sont pris dans toutes sortes de raisonnements, mais tu n'arrives même pas à apporter un peu de lumière pour leur dire, regarde, c'est parce que tu es pris dans un cycle, puis je comprends que ça a de la logique ton affaire, mais c'est juste ta logique à toi. Avec de l'humilité, tu pourrais voir les choses autrement. Esther est vraiment contente de ne pas avoir marié un gars comme ça. Hein, chérie? Si vous êtes des petits vites comme moi, il y a vraiment un piège incroyable là-dedans. Vous savez, la réplique tout le temps, là? C'est un piège incroyable. Tu pourrais littéralement passer à côté du salut. Littéralement. Parce que tu es tellement brillant, tu pourrais littéralement passer à côté du salut. Moi, je trouve que l'attitude des Juifs ici, des pharisiens, des docteurs, me fait penser à l'Occident. Ces gens-là pensaient que Dieu leur devait tout et ils ont manqué Jésus. Ils ont manqué leur Sauveur. Cette dame vient à Jésus, elle sait qu'il ne lui doit rien. C'est ça qu'elle dit. Lorsqu'elle dit « Fils de David », elle déclare « Toi, leur roi, pas le mien, aie pitié de moi. » Cette dame-là savait qu'il ne lui devait rien. Elle a tout reçu de lui. Mais les pharisiens, eux autres, étaient convaincus qu'il leur devait tout, que Dieu leur devait tout. Ils sont passés à côté. Et il me semble que ça ressemble beaucoup à l'Occident. Sauf que ça ressemble beaucoup à notre société occidentale qui, finalement, a tout reçu de Dieu. Pensons-y un instant, je veux dire, le niveau, on est à travers une récession. C'est dur. Il y a des gens ici dans l'Église qui perdent leur travail à cause de la récession. Mais quand même, honnêtement, on vit dans le confort. On vit dans la sécurité. On est capable de planifier des choses pour la fin de nos jours. Il y a bien des gens qui planifient pour la semaine prochaine ou pour demain. On a tout reçu. Sécurité, confort. Mais il reste un cancer qui va venir, la mort un jour, et Dieu nous doit tout. Puisque Dieu ne nous a pas tout donné, probablement que Dieu n'existe pas. On a tout reçu de lui, mais il reste encore les résultats de nos bêtises, de nos niaiseries, un cancer qui va venir un jour, des épreuves dans nos vies, et Dieu nous doit tout. Parce qu'il ne nous a pas tout donné comme on voudrait, probablement qu'il n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on est trop orgueilleux qu'on va passer à côté, c'est parce qu'il nous doit tout. Mais pensez-y, actuellement sur la Terre, le christianisme est en train de progresser à une vitesse fulgurante en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Il faut trouver une explication à ça. C'est parce que nous, on est plus cultivés, plus intelligents, puis plus brillants que ces gens-là. C'est probablement pour ça qu'eux peuvent croire en Jésus-Christ. Et pourtant, quand je lis les journaux puis je regarde, tout ce qu'on fait avec toute cette belle culture, cette belle intelligence, comment on traite le reste de la terre et les autres peuples sur la terre, je ne suis pas fier. Je n'ai pas l'impression que c'est une panacée, cette histoire-là. Vraiment, on se comporte comme eux. La connaissance enfle et Dieu résiste aux orgueilleux. Déjà, on doit retenir ça de ce passage. Parce qu'elle est venue vers Jésus en disant, « Je sais que tu ne me dois rien. » Elle va tout recevoir de lui. Elle va tout recevoir de lui. Matthieu est en train de nous raconter l'histoire du salut et il nous présente cette dame qui vient vers Jésus. Alors, elle vient vers lui puis elle dit, elle l'interpelle, elle dit, « Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Influences spirituelles, diaboliques, démoniaques, et elle voyait cet enfant que Dieu lui avait confié souffrir, et elle avait vraiment le sentiment qu'elle ne pouvait rien faire, elle avait tout essayé pour la libérer de ça, elle n'y arrivait pas, elle se tourne vers le roi des Juifs, et elle l'interpelle comme ça, puis elle vient à lui. Maintenant, Jésus est tough avec elle. Sérieusement, Jésus est tough avec elle. Dis pas un mot. Fait comme s'il n'avait rien entendu. C'est ça qu'il nous est dit dans le passage. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » C'est pas clair ici si c'est « Renvoie-la sans répondre à sa requête » ou « Renvoie-la en répondant à sa requête. » J'ai l'impression que c'est B, à cause de la suite du verset après. Jésus dit, « Il n'est pas bien. » de prendre le pain des enfants. Excusez-moi juste avant, au verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Fait que j'ai l'impression que les disciples sont en train de dire, « Veux-tu lui donner ce qu'elle veut, qu'elle nous laisse tranquille? » C'est mon impression. Puis là, Jésus leur dit, « Oui, mais non, moi, c'est pas maintenant. Pour tout de suite, je suis le roi des Juifs. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça mon mandat. Un temps va venir où la porte va être grande ouverte à toutes les nations de la terre, mais nous ne sommes pas rendus là encore. » Il est tough avec elle. Jésus a déjà béni des païens avant dans Matthieu, mais il est en train de la mettre à l'épreuve, il est en train de la tester. Et c'est ça qu'il est en train de faire ici. Pour des tests plus petits que ça, on arrête de prier, nous autres. Je veux dire, il est là devant toi, là. Il ne t'écoute même pas, qu'est-ce que tu fais? Puis lorsqu'il répond, il dit non, ce n'est pas pour toi la bénédiction, c'est pour eux. Regardez son attitude, elle est vraiment incroyable. Mais elle vint se prosterner devant lui. Les pharisiens n'auraient jamais fait ça. Est-ce qu'on s'entend? Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi! » Et puis là, tournez-le de toutes les manières que vous pouvez. Jésus lui envoie par la tête. Tournez-le de toutes les manières que vous pouvez. Jésus lui rappelle la dure réalité, c'est ça qu'il fait. Jésus lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, ça se peut que ce soit des un petit peu comme nous on a, des chiens domestiques, parce que s'ils sont en train de manger les morceaux ou les graines en dessous de la table, c'est peut-être pas les chiens que tu croises dans la ruelle, on s'entend, mais c'est quand même des chiens. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôtel pour chiens, puis tu sais, des douches aux chiens, on ne faisait pas ça, ces choses-là. D'accord? Si vous lisez l'Ancien Testament, un chien, c'est un païen. C'est une insulte. Alors, il dit, Israël, ce sont les petits-enfants. Il faut prendre soin des petits-enfants. Mais on ne va pas donner aux petits chiens ce qu'on doit donner aux petits-enfants. Jésus est dur avec elle. Il est vraiment dur. Il lui rappelle, tu ne fais pas partie de la nation élue, ma fille. Tu ne fais pas partie de la bonne gang. Tu ne fais pas partie du peuple élu. Et pour ceux qui lisent les Écritures depuis longtemps, on entend un petit peu l'apôtre Paul ici dans l'Épître aux Romains qui nous dit que Dieu est fidèle à ses promesses et il n'a pas abandonné Israël. Et il nous rappelle, Jésus lui-même nous dit ici qu'il y a un peuple élu. Et je pense qu'il reste vraiment une bénédiction pour Israël. Je m'excuse de faire des pistes d'eschatologie là, pour ceux qui ne sont pas familiers. Mais il y a un écho, là. Paul va donner écho à ce passage-là. Jésus est dur avec elle. Il est en train de l'éprouver et regarder son attitude. Elle ne va pas essayer d'argumenter avec lui. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres mots, ce qu'elle est en train de dire, je sais que la bénédiction est pour Israël, mais je suis convaincu qu'il te reste un restant de bénédiction pour nous, pour le reste des nations de la terre. Ça me suffit. Donne-moi les restants de la bénédiction, Seigneur. C'est assez pour moi. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Les pharisiens disent à Jésus, « Donne-nous toute la bénédiction comme on veut, maintenant, ou sinon on te crucifie. » Elle a dit, « Donne-leur toute la bénédiction, laisse-moi les miettes, puis je suis contente. » L'attitude est fondamentalement opposée. Et on apprend ici comment on approche Dieu, comment on approche Jésus-Christ, comment on vient à Dieu, avec quelle attitude on est censé venir à Dieu. Oups, il commence à descendre, je finis à genoux. Humblement, c'est ça que j'ai dit, hein, c'est ça que je prêche. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Puis Jésus est bouleversé. Jésus est bouleversé, Jésus est touché. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Les pharisiens estimaient que Dieu leur devait tout. Ils ne recevront rien de Jésus. Elle estimait que les miettes suffiraient. Elle reçoit beaucoup plus que les miettes. Sa requête est entièrement exaucée au moment même. Et je pense que la suite du passage, c'est pour ça que j'ai demandé à Alex de lire jusqu'à 39, je pense que Matthieu est en train de nous montrer que Jésus a beaucoup plus que des miettes à donner, parce qu'il va rassembler une foule. Probablement autour de 10 000 personnes, lorsqu'on compte les femmes et les enfants. Il va multiplier des pains et des poissons pour tout le monde. Jésus n'a pas juste des miettes à donner. Mais à celui qui vient à lui par la foi et humblement, il a beaucoup plus que des miettes à donner. Laissez-moi vous mêler encore un petit peu plus que ça. Moi, je pense même que la foule qui est là est probablement une foule mixte. Je pense que le miracle de la multiplication des pains se produit à l'extérieur encore du territoire d'Israël. C'est la deuxième multiplication de pains. Ceux que je perds, vous viendrez avec nous dans 3 minutes, ce ne sera pas long. C'est dit, Jésus quitta ces lieux au verset 29 et vint près de la mer de Galilée. Dans Marc, il nous dit que c'est dans le territoire de la Décapole, on est à l'extérieur du territoire d'Israël. Et là, il va faire cette multiplication, cette deuxième multiplication de pains. D'accord, il y en a déjà eu une qui a eu lieu. Au verset 31, la foule va s'exclamer en disant « Elle glorifiait le Dieu d'Israël ». Ça a beaucoup plus de sens d'entendre ça de la bouche de non-juifs, de glorifier le Dieu d'Israël que notre propre Dieu. On ne trouve pas cette expression-là utilisée comme ça dans les évangiles. Et puis un autre indice complètement flyé, mais c'est Matthieu. Matthieu fait souvent des choses comme ça. C'est vraiment un détail. Je ne peux pas être arrêté dans mon interprétation. Je pense qu'il y a un indice. Dans la première multiplication, il va rester 12 corbeilles, d'accord? Et dans l'évangile de Matthieu, le chiffre 12 n'est pas accidentel, parce qu'il y a 12, de la bouche de Jésus lui-même, les 12 apôtres vont juger les 12 tribus, d'accord? Alors, dans la première multiplication, il va rester 12 corbeilles. C'est clair qu'on est dans un territoire juif. Ici, il en reste 7. J'ai l'impression vraiment que Matthieu est en train d'insister pour dire il n'y a pas juste des miettes pour les nations aussi, mais il y a une profusion de bénédictions pour les nations. Mais je ne peux pas être dogmatique avec ça. Ce qui est très clair ici, c'est qu'à celui qui, comme cette foule, comme cette dame, va venir à Jésus avec humilité pour recevoir l'enseignement de Jésus, pour aller vers lui, pour reconnaître qui il est, simplement pour recevoir au lieu d'être en train constamment de l'examiner, de le critiquer, de le rejeter, d'attendre tout sans humilité, à ceux qui vont venir humblement, Jésus a beaucoup plus que des miettes à offrir. Il a à offrir des guérisons, des bénédictions et une nourriture éternelle qui va nous suivre dans l'éternité. Alors voyez-vous, on a comme deux histoires ici qui se mélangent. Vous avez l'histoire personnelle de cette dame. Et puis en même temps, vous avez l'histoire du salut qui est en train de se développer, qui est en train de nous parler à nous de l'attitude avec laquelle on devrait venir vers Christ. Et comment les gens autour de nous, notre famille, les gens qu'on aime, vont pouvoir découvrir Christ seulement en s'humiliant. Mais tant et aussi longtemps que les gens autour de nous vont garder cette attitude d'occidental qui dit « Dieu nous doit tout, puis parce que ben il reste une tornade là, qui s'est passée là-bas, c'est parce que Dieu n'existe pas. » Non, Dieu t'a donné assez de bénédictions pour que tu reconnaisses que ce n'est pas le fruit de tes mains. Et tu devrais humblement venir l'adorer pour découvrir le salut en Jésus-Christ. Mais regardons de plus près l'histoire de cette dame. Cette femme qui vient avec une humilité extraordinaire, avec une insistance. Regardez sa foi à elle, son expérience personnelle avec ce Jésus. Son attitude est tellement différente de celle des pharisiens. L'humilité est évidente. Elle l'interpelle en l'appelant fils de David. Elle reconnaît qu'il ne lui doit rien. Et pourtant, elle persévère puis elle insiste. Qu'est-ce qui a poussé cette dame à passer par-dessus l'obstacle de dire « Mais je ne fais pas partie de cette nation-là, il ne me doit rien. » Puis en plus de ça, Jésus l'ignore et après l'avoir ignoré, pour ainsi dire, il l'insulte. Mais elle persévère et elle continue. Qu'est-ce qui fait qu'elle va continuer à insister? Sa fille est malade. Dieu lui a donné une enfant et son enfant est sous l'influence, une influence spirituelle maléfique, puis elle est possédée par ça et elle a le sentiment qu'elle ne peut rien faire. Elle voit son enfant qui souffre, qui est là. Alors, ça ne la dérange pas quelles sont les répliques de Jésus. Et il y a une leçon et une exhortation et un encouragement extraordinaire pour nous dans ce passage-là. Si Jésus a libéré cet enfant d'une influence démoniaque, si Jésus a eu compassion de cette foule qui était là, qui avait simplement faim, pensez-y. Ils ont faim, c'est juste ça. Quel regard Jésus-Christ va-t-il déposer lorsque nous allons supplier Jésus-Christ de venir sauver nos enfants? Cette dame-là ne s'est pas arrêtée en disant « Est-ce que ma fille est une élue? » Non, non. Elle s'est dit « C'est sûr que ce n'est pas une élue, mais c'est mon enfant, le Seigneur me l'a confié et j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. » Elle savait très bien qu'elle ne faisait pas partie du peuple élu de Dieu. Est-ce que ça l'a arrêtée? Elle avait ça dans ses tripes, elle avait cet enfant qui souffrait. Alors elle est allée vers Jésus et elle a insisté. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus répond à cette femme parce que humblement, elle vient à Dieu et elle dit « Seigneur, aie pitié de mon enfant qui souffre. » Elle ne s'est pas demandé si sa fille faisait partie de la nation élue. Elle ne s'est pas demandé si elle méritait cette bénédiction. Elle ne s'est pas demandé si elle avait fait assez de pratiques religieuses dans la semaine. Elle ne s'est pas demandé si elle était digne de ça. La réponse à toutes ces questions-là, c'est non, 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 non. Je ne suis pas digne, Seigneur. Ce n'est pas une question de dignité, Seigneur. C'est juste que c'est toi qui possèdes et moi, je n'ai rien. Et je la veux, la bénédiction, Seigneur. Et ce n'est pas pour moi. C'est pour mon enfant qui souffre, Seigneur. Quelle réponse croyez-vous que Dieu va nous donner si nous prions pour nos enfants? Il y a vraiment un encouragement. Je sais qu'il y a plein de gens ici. Vous souffrez de voir vos enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur. Vous leur parlez du Seigneur. Ils n'ont pas pris une décision pour Christ. Mais écoutez la bénédiction qu'il y a là. Écoutez l'encouragement qu'il y a ici. Si Jésus a été sensible à la requête de cette dame qui n'était pas de la nation élue, de cette dame qui est venue changer les plans de Dieu. Ce n'était pas le temps. On n'est pas rendu encore dans Matthieu 28. Pas tout de suite, ma fille, tu reviendras plus tard. Non, Seigneur, c'est maintenant que je la veux, la bénédiction. Si Jésus a eu compassion d'une foule qui avait faim, il voulait du pain, il n'allait pas mourir. Quelle réponse est-ce que Dieu va nous donner lorsque nous allons nous humilier? Ça se peut qu'on doive persévérer longtemps. Regardez l'insistance de cette femme, sa persévérance. Quelle réponse Dieu va-t-il nous donner lorsqu'on va s'humilier ensemble en église pour prier les gens, pour les gens autour de nous, à notre travail? Puis on va aller devant le Seigneur, puis on va dire, « Seigneur, ils sont sous l'influence du diable. » Et je suis désolé d'insulter qui que ce soit dans cette salle, mais tant aussi longtemps que je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ, l'apôtre Paul me dit, « Je suis fils du diable, sous la colère de Dieu, parce que je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Quelle réponse, chrétien, pensez-vous que Dieu va nous donner si nous nous humilions devant Dieu et on dit, « Seigneur, mon peuple est sous cette influence, il n'a pas la bénédiction, il ne mérite pas la bénédiction, il n'en est pas digne, Seigneur, mais je te demande, Seigneur, d'avoir pitié de mon peuple. Viens et donne les miettes, Seigneur. Garde tout pour Israël, donne-nous juste les miettes, Seigneur. » Quelle réponse croyez-vous que Jésus-Christ doit nous donner? J'ai vu ma mère prier, et vous, plusieurs d'entre vous, avez vu ma mère et entendu ma mère prier pendant des années. Elle était cette femme cananéenne qui venait supplier Jésus de faire grâce à son fils, à son autre fils, qui était pris dans l'influence du monde, loin de Jésus-Christ, et elle suppliait afin que Jésus-Christ fasse grâce. Et si vous avez entendu maman prier à l'époque, vous savez que ce n'est pas une question pour elle de savoir si j'étais un élu ou non. Rien à cirer de ça, maman. Dieu, tu m'as donné cet enfant. Je suis une mère. Tu vas m'entendre jusqu'à la fin, Seigneur. Parce que je la veux, la bénédiction. Je le veux, le salut. On a tout un rôle à jouer comme parents. J'ai un rôle à jouer pour Bastien et pour Jade, à tous les jours. D'aller supplier l'Éternel, puis dire, Éternel, ils sont dans cette église, ils ont toutes les opportunités du monde, mais Seigneur, viens dans leur vie. Si toi, tu ne les touches pas, Seigneur, tous mes enseignements donneront rien. On a un rôle à jouer pour cette ville. On organise des événements avec Jéré Choir Gospel. C'est bien, on doit tomber à genoux et supplier l'Éternel. Et si Dieu a béni cette femme, parce qu'elle insistait, et si Dieu a, si Jésus a nourri cette foule avec du pain qui rassasie pour un jour ou deux, ne croyez-vous pas qu'il veut rassasier notre peuple, notre nation, la terre, avec l'Évangile et sauver des âmes? Cette dame n'a pas argumenté avec Jésus. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Aucun argument, aucune discussion. Je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Et il l'a béni. Approchons-nous humblement de Jésus-Christ. Supplions pour le salut de nos enfants, de nos familles, des gens autour de nous. Et apprenons que le christianisme, c'est la foi de l'humilité, pas de l'orgueil, pas des grosses têtes, mais d'un grand cœur humble devant Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur, nous aimons tendrement ces enfants que tu nous as confiés. Nous aimons, Seigneur, nos amis qui ne te connaissent pas, nos parents qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, pas parce que nous en sommes dignes. Il n'y a pas beaucoup de Juifs ici au milieu de nous. Il n'y a pas beaucoup de personnes de la nation sainte d'Israël. Seigneur, et pourtant tu as jugé bon de nous joindre au peuple de Dieu, Seigneur, de faire de nous une nation sainte. Mais nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous n'en sommes pas dignes, que c'est par ta grâce seulement, par ta bonté, par ta miséricorde, Seigneur, que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Et Seigneur, nous voulons t'amener comme Église ce matin, comme parents, comme amis, comme fils, comme filles, comme Québécois, Seigneur, comme Canadiens, nous voulons t'amener ces gens autour de nous qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ils sont sous toutes sortes d'influences, littéralement aveuglés, Seigneur, ne voyant pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ne reconnaissant pas en toi le digne fils de David, le sauveur du monde, celui par qui nous trouvons le pardon de nos péchés, Seigneur. Ils ne voient pas ces choses, ils sont aveuglés, ô Dieu. Mais entends nos prières, Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Donne-nous juste les miettes. Et nous allons célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Nous allons reconnaître que tu es le sauveur des hommes. Et nous allons glorifier ton nom. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.